Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle saison de Forêt Claire qui apporte son lot de changements. Je suis Alexandre Colby, votre nouveau présentateur. Pour cette tâche, je suis accompagné d'Audrey Sérone. Bonjour Audrey, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qu'on a de prévu cette année.
Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et à tous. Cette année, nous allons plonger dans les coulisses des forces armées, des stratégies de sécurité nationale et de défense, que vous soyez débutant ou plus aguerri. Alors, augmentez le volume et installez-vous confortablement. Une saison passionnante de découvertes et d'analyses approfondies débute. Et c'est maintenant.
Et pour ce tout premier épisode de Forêt Claire, nous retrouvons Tristan Ségur au micro. Étudiant en sociologie et en sciences politiques, vous êtes le directeur du comité d'études sur l'Asie-Pacifique au sein de notre association. Bonjour Tristan.
Bonjour.
Au programme, vous nous éclairez sur les enjeux géostratégiques de la France en Asie-Pacifique. Pour cela, vous êtes accompagné de deux experts, Antoine Bondaz, chargé de recherche au sein de la Fondation pour la recherche stratégique, ainsi que d'Antoine de Prémontville, officier de l'armée de terre et chercheur en politique. Tristan, à vous le micro.
Messieurs, merci d'être venus pour discuter des enjeux géostratégiques français en Indo-Pacifique. Tout d'abord, monsieur de Prémontville, pour nos auditrices et nos auditeurs qui découvrent le sujet, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'Indo-Pacifique et surtout, quelle est la présence française dans la région ?
Il faut savoir, c'est qu'il y a 1,8 million, on estime, 1,8 million Français qui sont résidents, qui sont ressortissants français, qui vivent dans la zone Indo-Pacifique. Alors, la zone Indo-Pacifique, c'est quoi ? Et bien, en gros, si on prend deux grandes lignes, on prend l'est de l'Afrique et l'ouest des Amériques, ça nous donne un immense espace, plus de la moitié des océans, où se trouve la plupart des deux tiers de la population mondiale. Ce sont des zones absolument immenses dans lesquelles la France dispose de régions, de départements, de collectivités d'outre-mer. Éparpiller cet espace. Alors on pense notamment à l'île de la Réunion, on pense facilement à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Mayotte également, mais on pense un petit peu moins aux îles éparses, aux terres australes, Wallis ou Futuna. Et en fait, si on regarde bien, grâce à tous ces territoires, la France dispose du deuxième espace maritime mondial après les États-Unis. Ça les aide eux notamment, eh bien 97% de cette surface est liée aux Outre-mer.
Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie ?
Nous sommes riverains directs de grandes puissances telles que la Chine, telles que l'Inde, les États-Unis, le Japon, le Vietnam. Nous sommes des voisins directs de ces puissances d'Indo-Pacifique, ce qui est une particularité qui nous distingue de nos partenaires européens.
Merci pour cette présentation. Antoine Bondaz, pouvez-vous décrire plus spécifiquement quels sont les enjeux français en Indo-Pacifique ?
Les enjeux stratégiques dans la région, on peut les diviser en deux grandes catégories. Il y a les enjeux stratégiques assez classiques dont on entend énormément parler ces dernières années, façonnés en partie par la rivalité sino-américaine, mais pas seulement. On peut penser aux différents territoriaux, qu'ils soient continentaux ou maritimes, de la Chine avec ses voisins, l'Inde, le Vietnam, les Philippines, le Japon. On peut penser évidemment dans la péninsule coréenne à la crise de prolifération nucléaire et balistique nord-coréenne, et puis plus largement aux tensions interétatiques. La deuxième catégorie d'enjeux tout aussi stratégiques, ce sont les enjeux globaux. L'impact du changement climatique, l'impact des prochaines pandémies, l'impact de la pauvreté qui a des conséquences en matière de stabilité ou non de certains régimes politiques, ce sont des enjeux qui sont quasiment tout aussi stratégiques que les premiers.
Merci pour cet éclairage, Antoine Bondaz. Maintenant que nous avons un panorama des enjeux, j'aimerais que nous parlions de la place de la France dans le cadre de la rivalité sino-américaine dans la région. Monsieur de Prémontville, comment caractériser les rapports de force en Indo-Pacifique ?
En fait, il y a plutôt un équilibre, et les équilibres, c'est toujours fragile, ça tend à pencher d'un côté ou de l'autre. Donc vous avez une contestation de l'ancienne hégémonie américaine par cette montée en puissance chinoise, l'Inde qui cherche également à jouer sa propre carte, et puis vous avez d'autres puissances régionales, on pense à l'Indonésie, on pense au Vietnam, le Japon bien sûr, qui également ont leur carte à jouer, alors avec un attachement plus ou moins fort de l'un ou l'autre côté, voire une tentative de troisième voie pour ce qui est de l'Inde.
Antoine Mondaz, pouvez-vous clarifier la situation? Outre la troisième voie diplomatique qui est incarnée par l'Inde, peut-on simplement réduire la situation à une bipolarisation de l'Indo-Pacifique entre Chine et États-Unis, où la réalité est-elle plus complexe?
On est justement dans une situation très différente de la guerre froide, pour l'instant. Ça peut évidemment évoluer dans les 10, 15, 20 ans, mais pour l'instant, aucun État de la région n'est obligé de choisir et de s'aligner sur la Chine ou les États-Unis. En général, les États ont justement une opportunité unique aujourd'hui de bénéficier de la compétition sino-américaine.
Bien sûr.
Alors parfois, ils en subissent les conséquences. On l'a vu avec la Corée du Sud ou l'Australie, quand il y a de la coercition économique chinoise qui s'intègre plus largement dans la rivalité sino-américaine. Mais encore une fois, les pays ont une opportunité unique de maximiser le soutien tant de Pékin que de Washington, mais aussi de maximiser le soutien des autres États. Est-ce que le président Macron et la ministre Colonna seraient allés dans le Pacifique Sud si le ministre Wang Yi n'y était pas allé l'année dernière et visité 8 pays en 10 jours et si les Américains n'avaient pas organisé un sommet États-Unis-Pacifique des dirigeants? La réponse est non. Non, parce que l'hypocrisie française, c'est que sous la Ve République, jusqu'à présent, il n'y avait eu aucune visite de président et aucune visite de ministre des Affaires étrangères dans les États insulaires du Pacifique. Donc on découvre un peu le Pacifique, non seulement parce qu'on est des territoires, ce serait bien de s'en rappeler, et il y a d'un côté une volonté de caricaturer la situation pour justement mieux vanter l'action de la France.
En parlant de l'action de la France, quels sont nos principaux partenaires dans la région, Antoine Mondaz?
Sur le papier, il y a deux partenaires principaux. Il y a le partenaire évident qui est l'Inde, et on l'a vu notamment avec l'invitation du Premier ministre Modi à Paris pour le 14 juillet, avec une relation qui ne cesse de se renforcer, basé depuis plusieurs décennies, puisque c'est pas récent, sur des partenariats de défense et notamment d'industrie de défense qui sont extrêmement poussés. On pense aujourd'hui au Rafale, mais il faut penser au premier contrat de Dassault dès les années 60-70 avec l'Inde. Et puis une relation avec l'Inde qui se diversifie. Et par exemple, j'invite tout le monde à regarder la feuille de route franco-indienne pour les 25 prochaines années, qui permet de donner un aperçu de l'ensemble des objectifs. Par exemple, dans le domaine éducatif, qui est un domaine dont on parle peu souvent. L'objectif est de quadrupler le nombre d'étudiants indiens en France d'ici 2030, grosso modo de passer de 7 000 à 30 000. Et puis l'ouverture de nouveaux campus. Par exemple, il y a un campus franco-indien dans les sciences de la vie qui vient tout juste d'être inauguré en Inde. Donc l'Inde, c'est le premier partenaire. Deuxième partenaire, c'est le Japon. Là aussi, un partenaire diversifié qui n'est pas du tout de la même nature qu'avec l'Inde. C'est un partenaire très important sur les enjeux globaux, mais très honnêtement, en matière d'industrie de défense, il y a extrêmement peu d'exportations de matériel vers le Japon. Et puis une relation, il faut le dire, depuis quelques années, qui est beaucoup plus difficile, puisqu'il doit y avoir une forme de frustration et de déception du côté japonais. L'opposition publique et au niveau présidentiel de la France à l'ouverture d'un bureau de l'OTAN au Japon, par exemple, n'a évidemment pas facilité la relation bilatérale. Et puis il y a toute une série d'autres partenaires. Il y avait un troisième partenaire avant 2021, qui était évidemment l'Australie. L'accord sur l'exportation et la construction de sous-marins remplacé par AUKUS a évidemment eu un impact considérable, même si la relation est repartie. Depuis la rencontre entre le président Macron et le premier ministre Albanese, c'était en juillet 2022. Puis il devrait y avoir, d'ici la fin de l'année, une visite de la ministre des Affaires étrangères, voire même du ministre de la Défense. Puis il y a d'autres partenaires, l'Indonésie, et puis plus largement, voilà, d'autres partenaires à l'échelle de la région.
Et vous, monsieur de Prémanville, que pouvez-vous nous dire sur les exportations d'armement de la France dans la région?
Fin d'année dernière, début d'année, vous avez eu un partenariat avec l'Indonésie. L'Indonésie qui se porte acquéreur de Rafale, alors qui va aussi acheter du F-15, parce que on n'est pas tous ses œufs dans le même panier, d'un point de vue... D'un point de vue logistique, tout ça, c'est pas forcément pertinent de multiplier les gammes, mais d'un point de vue géopolitique, c'est autre chose. L'Inde également, qui était l'invité d'honneur au 14 juillet, on serait en passe de remporter un contrat important pour la marine indienne. Donc vous avez quand même la France, qui est un grand fournisseur, un grand exportateur d'armes, qui réussit à remporter des contrats export très importants.
Alors, Au-delà des exportations d'armement, vient la question des moyens déployés par la France en Indo-Pacifique. On parle souvent de la tyrannie des distances pour désigner l'immensité de la région, tandis qu'environ 7000 militaires français y sont déployés, dont moins de la moitié dans le Pacifique, auprès de seulement 2 frégates de surveillance. Est-ce que les moyens déployés par la France sont suffisants pour assurer la protection de nos intérêts et la réalisation de nos ambitions, selon vous, Antoine Mondaz?
Clairement, les moyens déployés en permanence dans la région pour assurer la souveraineté et la surveillance à tout instant de ces espaces n'est pas suffisante. Les moyens déployés ne sont pas suffisants.
D'accord.
Après, tout dépend des objectifs. Alors, on entend des gens qui voudraient multiplier par 10 les troupes envoyées, un SNA, des rafales, etc. Est-ce qu'il y a des menaces sur la souveraineté de ces territoires aujourd'hui? Franchement, non. Est-ce que la Chine va envahir la Nouvelle-Calédonie dans les 10 ans à venir? Non. S'ils envahissent une île, si les Chinois envahissent une île dans le Pacifique Sud, ce qu'ils ne feront pas, ce ne sera pas la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire un territoire français d'une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, qui peut projeter des forces et qu'il démontre, notamment l'armée de l'air, depuis maintenant quelques années. Donc, les moyens sont adaptés pour les enjeux de souveraineté et de protection du territoire. Après, est-ce que les moyens sont adaptés pour répondre aux moyens de surveillance des grands espaces, notamment des zones économiques exclusives? Alors, on a des moyens au sol et puis des moyens satellitaires. Les moyens pourraient très certainement être renforcés. Et puis, troisièmement, est-ce que la France a suffisamment de moyens pour répondre à différentes missions, non pas de souveraineté, mais des missions d'assistance aux pays de la région? On parlait de l'assistance en cas de catastrophe naturelle, surveillance des zones de pêche, lutte contre les narcotrafic. Ça pourrait très certainement être renforcé, et c'est le cas.
J'aimerais terminer avec un peu de prospective. Vous aviez déclaré dans un entretien donné à France Info le 10 avril qu'il fallait prendre au sérieux les menaces de Pékin concernant la possibilité d'une annexion territoriale de Taïwan. Si cela se produit et qu'un conflit ouvert éclate entre la Chine et les États-Unis, quelle serait la position de la France selon vous? Quel rôle nous pourrions jouer dans le conflit?
Qu'est-ce que la France ferait? Peut-être que la question avant, c'est qu'est-ce que la France pourrait faire avant? Le rôle, et moi j'ai toujours répété, de la France et de l'Union européenne, c'est avant tout de contribuer à maintenir la stabilité et à éviter un changement unilatéral et par la force du statu quo. Notre rôle, il est avant tout dans la prévention d'un conflit plutôt que dans l'intervention. Et moi, je veux bien faire 50 wargames en 1.5, en associant des officiels et des chercheurs, ou alors qu'avec des chercheurs, comme on fait souvent en Europe, où on explique qu'est-ce qui se passerait s'il y a une guerre dans le droit de Taïwan. Premièrement, les Européens n'auraient quasiment pas de moyens de projection. Donc à un moment, il faut quand même revenir à la base, qu'est-ce qu'on pourrait engager comme force. Deuxièmement, notre valeur ajoutée, ce ne serait pas forcément d'envoyer une frégate dans le détroit de Taïwan, mais plutôt dans l'océan Indien, en mer Méditerranée, de permettre aux Américains de déployer davantage de forces au large de Taïwan. Pareil, on entend souvent dire « Ah, mais les Français, les Européens pourraient partager du renseignement avec les Américains ». Alors, je veux bien qu'on ait des capacités de renseignement, mais je ne suis pas sûr qu'on en ait des complémentaires ou des supplémentaires à ceux que les Américains, dont les Américains disposent. Donc, je pense que c'est un faux débat de se dire qu'est-ce qu'on ferait. Le choix serait très compliqué. Sur le plan militaire, on serait extrêmement compliqué. Sur le plan économique, on en parlait précédemment, les marges de manœuvre seraient limitées parce que les conséquences pour nous seraient limitées. Et donc, la meilleure chose à faire, ce n'est pas de se dire qu'est-ce qu'on fait s'il y a un conflit, c'est de tout faire pour qu'il n'y en ait pas.
D'accord.
Et dans ce cadre-là, la France joue un rôle et je pense que évidemment, l'objectif du président dans son interview à son retour de Pékin n'était pas de dire que la France est équidistante ou s'en fout de ce qui se passe dans l'étroit de Taïwan. Mais je pense que de fait, il y a eu une erreur d'expression qui a premièrement renvoyé dos à dos la Chine et les États-Unis, voire qui a fait des États-Unis les responsables, puisque le président parlait de surréaction chinoise. Deuxièmement, il y avait une grosse maladresse de renvoyer dos à dos l'unité européenne et l'unité chinoise, comme c'est fait en début d'interview. Puis troisièmement, il y avait l'idée, mais là encore une fois, c'est une surinterprétation, que ce n'était pas, grosso modo, la crise des Français. Évidemment que ce serait la crise des Français. Non seulement parce qu'on y a des intérêts, parce que les Européens y ont des intérêts, parce qu'on est un membre permanent du Conseil de sécurité, et ça, le président le sait parfaitement. Et donc, je pense qu'à aucun moment, il y a une naïveté du président en se disant qu'on s'en fout, qu'on ferait rien et qu'on laisserait les Américains se démerder. Mais il y a un réalisme sur deux choses. Premièrement, les moyens dont on dispose. Et deuxièmement, sur le rôle qu'on doit essayer de jouer, qui est de comment est-ce qu'on contribue à atténuer les tensions, si on peut le faire.
Et justement, au vu des capacités de projection réduites d'une part de la France, mais plus largement des pays européens, de quel levier dispose la France pour éviter qu'un conflit ne survienne dans
les leviers, ils ne sont pas militaires. Les leviers, ils sont avant tout politiques. Ils sont, si on peut, de trouver des espaces de déconfliction entre la Chine et les États-Unis. Je ne sais pas, je réfléchis à voix haute, mais bon, on parle tout le temps du P5, hein, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. On a 5 États, mais dans le cas de la rivalité sino-américaine, on a les Royaumes-Unis qui est relativement aligné sur les États-Unis et la Russie qui se rapproche de plus en plus de la Chine. La France n'est pas neutre et à aucun moment équidistance entre Chine et États-Unis, mais pourrait jouer un rôle, par exemple, au moins de format de discussion à 3, Washington, Paris, Pékin. Et on peut imaginer un track 2 qui se transforme en 1.5 pour évoquer les grandes questions stratégiques, y compris potentiellement la question de Taïwan dans ce cadre-là. Il faudrait évidemment que les Chinois et les Américains le souhaitent, ce n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, là, il pourrait y avoir des discussions françaises. Mais plus largement, je pense qu'il faut garder à l'esprit que la guerre, elle est en rien inévitable. Deuxièmement, qu'il faut condamner certains comportements politiques qui, évidemment, peuvent mettre de l'huile sur le feu. Et oui, il y a des entrepreneurs politiques aux États-Unis, comme en Europe, qui vont utiliser la carte de la Chine, utiliser la carte de Taïwan à des fins politiques. Mais c'est comme ça sur tous les sujets. Encore une fois, moi, le seul point qui me gêne, c'est de donner l'impression que l'analyse française de ce qui se passe et de la dynamique dans l'étroit de Taïwan serait de renvoyer dos à dos la Chine aux États-Unis ou de faire pire des États-Unis les responsables. Ce n'est pas le cas. Et je pense que ce n'est d'ailleurs pas l'analyse de l'administration française qui a bien conscience de ce qui se passe et encore une fois de la volonté révisionniste chinoise, révisionniste dans le sens changement du statu quo à long terme. Et quels que soient les moyens d'ailleurs que la Chine pourra ou devra, selon leurs éléments de langage, utiliser.
Merci à Fort et Clair pour ce podcast. Je vous repasse le micro.
Merci Tristan pour cette émission des plus intéressantes sur une région que nous ne connaissons malheureusement que trop peu. Un grand merci à nos deux intervenants, Antoine de Prémontville et Antoine Bondaz, pour leur temps et leur expertise. Nous remercions aussi le comité Asie pour sa participation à notre émission. Mention spéciale à Simon Requena, le référent podcast du comité Asie. Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous disons à très bientôt. Fort et Clair revient très vite à l'antenne pour un sujet tout aussi passionnant, l'Orient Express.